Tous les jeudis à 9h et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Il vient mettre des paillettes dans nos vies, il vient mettre des marque-pages dans nos livres. Sa vie n'est que cotillon, son monde est étrenne. Je l'étreins aussi. Romain Baxer, bonjour.
Eh bien bonjour Anthony Lecoq, vraiment merci de cette présentation. Je ne peux faire mieux ni plus poétique.
Je fais ce que je peux, ça, avec tous mes vœux.
Merci, voilà, mes vœux, meilleurs vœux.
Mon neveu.
Et à tous et à toutes auditeurs et auditrices également, je souhaite plein de belles découvertes littéraires.
En cette rentrée littéraire, c'est comme ça qu'il faut l'évoquer.
Mais tout à fait, parce que c'est incroyable, nous n'avons pas qu'une rentrée littéraire en septembre, nous avons deux rentrées littéraires dans l'année littéraire, donc une en septembre et une en janvier. Celle de janvier est pas mal parce qu'on est à 500 romans quand même, en septembre on était à 650.
Mais est-ce que c'est deux salles, deux ambiances? C'est-à-dire qu'il y a une rentrée littéraire septembre, on va dire, c'est un petit peu plus grand public, et la seconde qui offre des perspectives sans être non plus underground.
Voilà. Soyons modestes. Mais en effet, tout à fait, la rentrée de septembre, elle est surtout là aussi en vue des prix littéraires là, qui sont attribués en octobre-novembre. Donc là, en effet, là, on lance les manuscrits qu'on veut voir faire du buzz, comme on dit. Pour en vue du prix, on fait campagne déjà. Alors que là, en effet, en janvier, il n'y a
même
plus.
Il n'y a
plus du tout de.
Il y a zéro prix.
Il y a quand même des enjeux toujours de tirage,
Des livres un petit peu originaux, avec deux mots par page.
Voilà, ou alors des blockbusters, vous voyez, c'est paradoxal, c'est-à-dire que sort le troisième tome de la trilogie de Pierre Lemaitre, là, avec Au revoir là-haut, le
Goncourt,
a fait un succès énorme.
Génial adaptation avec Dupontel.
Voilà, il y a eu ensuite le deuxième opus qui avait été tiré à 300 000 exemplaires, vous voyez, et là le troisième...
300 000
Le deuxième c'était 300 000 exemplaires vendus, c'était hallucinant. Non, le Goncourt, c'est à peu près 450 000. Donc là, un tirage, disons, normal pour un livre qui n'a pas le prix à 300 000. Donc là, Pierre Lemaitre sort Miroir de nos peines chez Albin Michel à 200 000 exemplaires en tirage. Donc c'est énorme.
Ça
va être, vous voyez, un des blockbusters de la rentrée avec Daniel Pennac chez Gallimard qui publie La loi du rêveur. Lui aussi, il est très attendu. Il y a aussi les vieux barbons de l'Académie française, Éric Orsenna qui sort un livre. Mais il y a aussi les jeunes trublions, Baïk Bédé là, qui nous sort un bouquin.
Oui, alors apparemment, il règle ses comptes avec. Une la radio sur laquelle il œuvrait, désœuvrait.
Pour avoir entendu des chroniques, on peut se douter des sueurs froides des régisseurs et des.
Qui doivent trembler. Pied dans la fourmilière de temps en temps.
Voilà, Baïk Bédé.
Il me dérange pas, moi, Baïk Bédé.
Non, il est en fait presque inoffensif, j'ai envie de dire. Voyez, à force de.
C'est pas gentil, ça.
Aïe, j'espère qu'il m'écoute pas.
Vous êtes inoffensif. C'est absolument cruel. Mon Dieu.
C'est le pire qu'on peut leur dire à ces gens-là.
Vous êtes inutile. C'est pareil.
Non, inoffensif, ça peut être agréable. De s'entourer de colifichés inoffensifs comme ça.
Donc, j'entends bien.
Il y a également Yasmina Reza, Nina Bouraoui, Anne-Marie Garat et Pierre Bailly qui sortent des ouvrages tout à fait intéressants, un peu moins, disons, attendus par les grands critiques. Quoi que Yasmina Reza, excellent. Je suis très méchant ce matin. Je me reprends.
Baïk Bédé est inoffensif, autant vous êtes mignon, mon cher.
Je me reprends. Chez les Américains et les étrangers, la rentrée de janvier, il y a aussi des grands noms. Il y a T.C. Boyle, l'Américain T.C. Boyle, qui avait notamment été extrêmement remarqué par Water Music. Mais il y a également l'Anglais Ian McEwan, qui sort un autre livre. Et le Nigérian finaliste du Man Booker Prize, Chigozie Obioma. Ça risque d'être aussi une lecture très intéressante. Donc voilà pour un petit panel vraiment à la louche de cette rentrée de janvier. On attaque tout de suite par notre premier... Voilà notre premier conseil littéraire de la rentrée. Alors un auteur qui est très cher à mon cœur, vraiment, il s'agit de Jean Echenoz. Jean Echenoz, vous vous rappelez peut-être, il a eu le Goncourt en 99 exactement, il a eu le prix Goncourt pour Je m'en vais. Jean Echenoz, c'est un auteur français publié par les éditions de Minuit, un auteur français qui compte beaucoup, j'ai envie de dire. C'est une des stars de l'édition française. Alors c'est pas Guillaume Musso ou Marc Lévy, c'est pas de ce côté-là du blockbuster, si je peux dire. dire. C'est plutôt un excellent auteur, hein, tout simplement, qu'on peut retrouver. Je l'ai déjà vu en tête de gondole dans des grandes surfaces commerciales. Vous voyez, j'étais très surpris parce que c'est Jean Echenoz, pour aller vite, c'est un tour assez littéraire.
Jean Echenoz.
Il y a un critique, je n'ai cité aucune enseigne, hein, mais il y a un critique littéraire qui a dit à propos de Jean Echenoz. Jean Echenoz, c'est la subversion du roman par déstabilisation douce.
Qui
la subversion du roman par déstabilisation douce,
c'est quelqu'un avec qui je ne passerai jamais le réveillon.
Pierre Le Pape, critique littéraire du Monde dans les années 80. Moi, je trouve que c'est une très très belle phrase. Bon.
Le Monde dans les années 80, avec cette phrase est terrifiante. Mon Dieu.
Non. J'ai déjà testé sur pas mal de lecteurs. Ça a l'air d'être sympa comme définition, en fait, du style de Jean Echenoz, qui nous revient donc cette année avec Vie de Gérard Fulmar.
Ça fait la vie dissolue de Gérard Flock un peu. Qui est ce Gérard
Fulmar dans le Nîmes, dans le dans le nom.
Je sens que c'est pas un garçon en réussite avec un nom pareil, je sais pas pourquoi.
Ça fait Fulmar, c'est vrai, ça fait Flemmard, ça fait.
Ouais, ça fait le mec qui a raté 2-3 trucs dans sa vie quand même, je sais pas quoi. Son nom.
Comme
déjà.
Quoi, voilà, ça c'est déjà le génie du romancier, on a juste un titre avec un
tu
nom.
Tu sens qu'il est pas guitariste dans un groupe de rock, le mec, c'est Gérard Fulmar.
Quoi qu'il est question aussi de Mike Brandt dans ce roman, au moment donné.
Ah oui, vous fermerez la fenêtre derrière. Oui, alors pardon.
Et donc.
Qu'est-ce qu'il y a?
Donc Gérard Fulmar, donc fille de Gérard Fulmar. Alors vous voyez, ça s'inscrit dans ses vies, c'est de la parodie, hein, ce texte de Jean Echenoz, vous l'avez compris, il aime subvertir, déstabiliser les romans, il aime un peu la parodie, vous voyez, l'ironie, le comique des situations. Gérard Fulmar était steward, vous voyez, et que bien qu'il ait une carrière difficile parce qu'étant en surpoids, vous voyez, dans ce monde du steward, bon, c'est pas bien vu, mais c'est pas ça qui l'a poussé.
Même quand on est passager, hein, c'est compliqué.
Oui,
oui, non, vous aviez vu ça.
Alors,
il y avait un passager, je change complètement de sujet, enfin, quoi que, un passager qui avait dû payer deux places parce qu'il avait un gros boule.
Ah, oui,
et
oui.
Il avait dû payer deux places alors qu'il était tout seul en raison de son
scandaleux.
Pour ce bon vieux Gérard Fulmar,
écoutez,
de son
je vais
état.
Tout simplement vous lire une petite extrait du roman qui direct. Présente en fait le personnage.
Oh, bah,
voilà, tout simplement. Alors, mais pourquoi direz-vous ne suis-je donc plus steward? Pourquoi n'exerçais-je plus une si enviable profession? Eh bien, sans évoquer le handicap de mon surpoids toujours mal vu dans le milieu aérien, disons que je l'ai pratiqué pendant 6 ans avant d'être licencié pour faute. Je ne tiens pas à m'étendre sur cette faute, si ce n'est qu'elle m'a valu une peine avec sursis assortie d'une obligation de soins.
D'accord.
Voilà, Gérard Fulmar, il vient donc du monde aérien. Il a tout simplement, il a décidé de monter une entreprise, un petit cabinet de détective.
Détective privé,
simplement il a donc réfléchi, je vous refais une recitation. Ainsi ai-je pris ma décision, de la sorte ai-je rédigé mon annonce, cabinet Fulmar Assistance, renseignements et recherches, litiges et recouvrements, promptitude et discrétion.
D'accord, et ça fait quoi, les maricocus, les choses, non?
Alors, eh bien, écoutez, ça commence en effet comme ça, c'est vrai que voilà, un homme assez âgé lui demande de s'enquérir de la présence ou de l'absence d'une jeune fille.
Ouais.
Bon, il se trouve que le chèque était en bois, bon, donc il a arrêté ses recherches. D'accord. Le deuxième client, c'était aussi pour une histoire de jeune femme disparue, il accompagne le client jusque chez lui pour prendre en plus ample connaissance du dossier. Il se fait enfermer dans sa maison, la femme était morte dans la maison, le type ferme la maison et s'enfuit.
D'accord.
Voilà, alors Gérard Fulmar, il y a de la ressource, il réussit aussi à s'enfuir de la maison malgré les sirènes arrivant.
Oui.
Vous voyez, et donc il n'a rien. Donc là, on est à la troisième, au troisième cas. C'est une sombre affaire, c'est une sombre affaire. Là, il faut parler de politique. Voilà. De politique, nous avons un parti qui pourrait ressembler à des partis extrémistes
type
en France ou.
Oui, en Europe.
Et donc, mais vous voyez qu'il y a aussi un côté très grand guignol au final, hein, dans ces histoires de famille, de dynastie politique, de famille.
Famille d'origine bretonne, peut-être.
Donc,
oui.
Mais en tout cas, ce sont des dynasties politiques, vous voyez.
Oui.
Et donc là, c'est le même cas. Gérard Fulmar va s'occuper de la disparition de Nicole Tourneur. Nicole Tourneur, présidente donc du parti, conservateur.
Qui se rassemble.
Et donc, Nicole Tourneur, eh bien, malheureusement, a disparu. Vous voyez, donc là, le parti, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Franck Terraille, qui est président d'honneur, vous voyez, qui a fondé le parti, lui, doit un peu reprendre les rênes, comme sa compagne présidente, disons, c'est pas sa fille, là, sa compagne.
Nicole.
Voilà, sachant que Nicole Tourneur a une fille qui s'appelle Louise Tourneur, qui est une une personne, disons, de toute beauté, oui. Vous voyez, qui va donc fortement intéresser, charmer, si je puis dire, de notre ami Gérard Fulmar.
Qui ne peut pas tout miser sur son physique, on le rappelle.
Exactement, tout à fait, la Belle et la Bête, enfin, vous voyez, oui, parlons de haute littérature, de contes, de Grimm, de Perrault, de tout ça. Et donc, Gérard Fulmar va s'enquérir de Nicole Tourneur, en lien avec donc Louise Tourneur. Vous voyez, ils vont parler avec Joël Chanel, un élu du parti.
J'adore les noms.
L'adjoint de Joël Chanel s'appelle Cédric Ballester, mais il y a le fameux garde du corps, officiellement gestionnaire de biens, assistant numéro 1
Groland, quand même,
de Franck Terraille, Luigi Pannone. Et voilà, lui, c'est un personnage important.
Qui a un nom de gâteau italien.
voilà. Mais bon, je termine avec Dorothée Lopez, qui est la conseillère juridique.
La
qui est la conseillère juridique de donc, pareil, du parti. Et donc. Écoutez, faisons un point sur la science des noms. Ça, c'est pas beau.
Ouais.
La science des noms, ce qu'on appelle l'onomastique chez les universitaires.
Comment vous dites ?
L'onomastique. Voilà, l'onomastique, c'est la science des noms, la science des mots. Vous voyez, c'est-à-dire que le mot va signifier au-delà de son simple.
Là, c'est le nom propre. Vous dire que suivant
commun, l'onomastique, c'est-à-dire la science des noms et des mots. Vous voyez,
donc, l'onomastique quand je dis par exemple Gérard Fulmar, ça sent pas la win.
Tout à fait. Exactement. Vous êtes un
onomastique accompli.
Voilà, et j'accepte.
Et
donc voilà, ça c'est l'art littéraire. Donc vous l'aurez compris, cette présentation bien foutraque.
Romain Baxer, à quoi ça peut faire
oui, vide Gérard Fulmar. Attention, il y a un X dans mon nom.
Oui, c'est vrai.
Attention.
Je serai le pire.
Donc voilà, vide Gérard Fulmar, Jean Esnoz. En fait, là, vous allez plonger dans une parodie de romans d'espionnage, de romans d'enquête, un peu une parodie de polar. Vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à ces phrases chantournées. Vous voyez ces phrases travaillées, là, la Jean Echenoz. Donc voilà, Vie de Gérard Fulmar, aux éditions de Minuit, qui vient juste de sortir en librairie. Donc j'ai envie de dire, courez-y. Aux côtés de Gérard Fulmar.
Très bien. On se retrouve avec d'autres ouvrages, avec plein de mots et des pages, toujours à votre compagnie, mon cher Romain. Petite pause musicale en compagnie, j'avais envie des Ronettes. Ce sont des petites Rhônes.
MDM, tout un monde.
Tout un monde.
Soda. MDM, plus proche de chez vous.
Et on révise ces classiques en musique, production, légendaire Phil Spector, les Ronettes à l'instant sur MDM. En attendant de devenir des mythes de la littérature, des nouveautés à aller découvrir, par exemple du côté de la librairie Caractère Social Club, est présenté par celui qui est notre invité permanent aujourd'hui, Romain Baxer, rebonjour.
Rebonjour.
Que se passe-t-il? Vous êtes arrivé avec un pavé.
Un très joli pavé de monsieur Toussaint Louverture, éditeur. Oh, bah, on commence à le connaître, cet éditeur.
Il est chez lui ici.
Français, oui. Bon, oui. C'est vrai qu'on aime bien le chroniquer, ses textes.
S'il est bon, il est bon.
Ça en devient presque énervant parfois. La critique facile.
Mais c'est agaçant, cette manière d'avoir du talent comme ça. Là, ça sort par tous les pores.
Mais oui, vous voyez, ça vous diminue un peu vous-même, quoi, vous n'en avez pas autant.
Oui,
donc,
voilà, on appelle ça le complexe.
Non, surtout pas. Alors, oui. Non, là, Monsieur Toussaint Louverture, vraiment, on peut le louanger pour ce texte qui vient donc de publier de Frédéric Exley, À la merci du désir. Donc, Monsieur Toussaint Louverture, pour un petit rappel, c'est un éditeur qui fait quasiment exclusivement des traductions de l'américain, enfin pas que, mais énormément de l'américain. Et là, en fait, Frédéric Exley, qui est un auteur américain, 1929-1992, disparu il y a déjà une vingtaine d'années. Mm-hmm. Et bien tout simplement, Frédéric Exley, j'ose le dire devant vous, grand lecteur de Charles Bukowski, c'est un peu le Bukowski de la fin du XXe siècle.
Non, alors, je vous attends au virage.
Alors pourquoi? Alors il a écrit Dernier stade de la soif, c'est la traduction de A Fan's Note.
Ah oui, effectivement, d'accord, je comprends mieux.
Ouais, Fan's Note.
Je pensais qu'on parlait du style, oui, d'accord, il est bukowskiste
jusqu'au
boutiste.
Ouais, voilà, il a écrit donc ce texte, Fan's Note, en 1968, Dernier stade de la soif, qui n'est pas donc le livre dont je vous parle actuellement, en fait, à travers les autres livres publiés. Là, aujourd'hui, c'est À la merci du désir, c'est le troisième roman, en fait, de Frédéric Exley. Il a publié donc Dernier stade de la soif, mm-hmm. À l'épreuve de la faim, et À la merci du désir. Ça, ce sont les trois titres français. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas une traduction un peu plus littérale des titres de ces ouvrages, parce que A Fan's Note, ensuite Notes from the Cold, et le dernier titre, Last Notes from Home. Désolé pour l'accent.
Ces
trois livres, vous voyez, ce qui parle de mémoire. Ce sont des mémoires fictifs, comme le disait Frédéric Exley. C'est la vie de ce Frédéric Exley, prof d'anglais au lycée. Extrêmement, extrêmement porté sur la boisson. C'est une de ses malédictions. Vous voyez, l'alcool. Bon, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être simplement la malédiction de nos sociétés contemporaines, occidentales, également. Donc, en fait, dans ce premier livre, en 68, vous voyez, publié ça dans les années 60 aux États-Unis, c'est loin des petites fleurs et de l'imagerie flower power, vous voyez, de l'époque. Ouais. Lui, c'est un râleur, vous voyez, c'est ça que moi que j'aime beaucoup chez certains des auteurs, et vous aussi, je sais,
ces
anti-héros.
On est plus profondément humains.
Il n'y a pas que des Français qui râlent, en effet, et ce sont des anti-héros, vous voyez, magnifiques, des losers magnifiques, des perdants magnifiques, comme on dit maintenant, c'est une expression presque galvaudée.
Et que l'on doit à Léonard Cohen, faut le rappeler.
Très bien. Voilà. On a perdu même les sources de ces expressions figées, pardon, magnifiques.
On ne sait même plus qui a dit quoi.
Donc voilà, donc Frédéric Exley, dans son premier texte.
La
question, qui engendre qui. Donc voilà, donc en fait, Frédéric Exley, juste pour terminer, en fait, parce que voilà, ces ouvrages, comme ce sont des mémoires fictives, vous suivez cet homme dans sa vie, donc dans sa vie d'alcool, vous l'avez compris, mais dans sa vie également sentimentale, bien évidemment sexuelle. Vous avez les frasques vraiment de ce personnage dans la société, vous voyez, qui en fait refuse tout compromis, extrêmement radical, vous voyez, pourtant une société qu'on dit assez peu politisée, les Américains, enfin pas politisée à la française, en fait c'est extrêmement politique, vous voyez, mais il interroge les éléments de la vie, si je puis dire, c'est-à-dire que dans le premier texte, il parlait en fait d'un joueur de football américain, Frank Gifford, un grand joueur de foot, c'est pas un quarterback, mais un halfback, je crois, des Giants. Des Giants, vous voyez, grande équipe, bien évidemment, de football américain. Et donc,
t'as touché votre vie.
Frédéric Exley, j'ai passé bien 2 mois aux États-Unis quand j'avais 18 ans.
Pécho des pom-pom girls. Je ne savais pas. C'est inouï.
Ah là là, on est dans l'imagerie, mais oui, tout à fait. Et donc, Frédéric Exley.
Cliché, je vous l'accorde.
Non, mais Frédéric Exley a interrogé cette imagerie, vous voyez, parce que lui, il a fait une espèce de fascination monomaniaque sur Frank Gifford, ce joueur donc des Giants. Il l'a suivi, il a épluché ses stats. droite, enfin vous voyez à l'américaine, quoi. Ouais. Il est rentré vraiment, il est devenu obsessionnel, ouais, vous voyez, ouais, sur ce joueur de foot.
Fan.
À tel point d'ailleurs que ce même Frank Gifford, dans les années 2000, à la parution du livre dont je suis en train de vous parler, ouais, La Merci du Désir, a fait une soirée, vous voyez, une réception publique en l'honneur de la sortie de ce livre.
D'accord.
Qui parle, bien sûr, de okay. Frank Gifford, hein, également. Ouais, donc là, c'est vraiment la réalité qui rejoint la fiction. Aussi, Frank Gifford était le camarade de chambrée de Frédéric Excès à la fac.
D'accord.
Oui, ils se sont côtoyés à ce moment-là. Oui, mais c'était pas non plus l'ami, parce que Frank Gifford.
Ils se sont côtoyés, c'était pas de chambre.
Voilà, ils étaient, mais c'était pas non plus les grands amis, mais en tout cas.
On fait des soirées étudiantes à boire des shooters.
Sans doute, parce que l'alcool, il connaît. Donc voilà, juste pour en fait terminer une présentation qui est aussi, peut-être pas aussi fouillue que pour Gérard Fulmar de Jean Echenoz, mais qui est très touffue également, parce que là, c'est rentré dans les mémoires fictives d'un homme. Vous avez toutes ces frasques, bien évidemment, ces relations de famille, hein, le texte là s'ouvre sur l'annonce de son grand frère qui va mourir d'un cancer, vous voyez, donc en fait on dit
c'est bien que l'émission s'achève,
mais en fait ce n'est que le début, vous voyez, c'est là où, alors après on peut faire des grandes analyses littéraires, mais le début d'un roman qui est la fin d'un homme, voilà, on comprend en fait après la mémoire, enfin l'évocation de son grand frère, c'est aussi un livre à la mémoire de son grand frère disparu, voilà, c'est extrêmement touchant, vous voyez, quand on lit ces textes là qui sont à la fois très très écrits. C'est extrêmement écrit, quoi. Excès, il passait des dizaines d'heures sur sa machine à écrire. Et en fait, on dirait que ça coule comme ça, que c'est spontané, d'accord, que c'est juste une espèce de récit, de pensée, comme ça, très très fluide. Alors qu'en fait, c'est extrêmement écrit, extrêmement construit. Je le rappelle, il n'a écrit que 3 livres sur sa courte vie d'une 60aine d'années. Donc vous voyez, il a mis beaucoup, beaucoup de lui. Vraiment, donc voilà, à la merci du désir, hein, Anthony. Peut-être vous êtes.
Oui,
peut-être que vous n'êtes jamais à la merci du désir. Je sais que vous restez toujours d'airain et serein en toute occasion, rien ne peut vous perturber.
Je porte le désir en moi comme une gourmette. Voilà.
Et bien voilà, je retiens cette citation, Anthony Lecoq. Écoute, merci.
On va rester là-dessus. On va se quitter. Est-ce que vous avez des petites choses à dire sur l'exposition qui nous attend du côté de la librairie Caracas?
Demain soir, vraiment, je vous enjoins à venir à cette fabuleuse et très belle, je pense, très beau vernissage de Sofiane Bakouri, photographe algérien, s'il vous plaît, qui nous livre une espèce de reportage photographique des événements algériens.
On peut rappeler actuellement. Des événements actuels.
Des événements vraiment très, très, très actuels. Donc, l'expo va courir du 10 janvier au 31. C'est une expo qui nous a été suggérée, qui a été vraiment... comment dire, qui a pu se faire grâce à Katia Chibi, je le répète. Donc voilà, Sofiane Bakouri, demain soir, à la librairie Caractère, et samedi soir, voilà, prenez l'argent, laissez-nous le savoir, la marche d'Aoukas en Algérie. Voilà, ça c'est le titre complet de l'expo de Sofiane Bakouri. Donc vraiment, ça risque d'être tout à fait passionnant, et Katia pourra nous éclairer un peu sur les événements algériens. Et samedi soir, à 19h également, comme l'expo.
J'ai pas trouvé le lien sur mon téléphone, il y a de la musique.
Non, nous avons un concert, voilà, je remercie déjà chaleureusement et toujours par avance Benjamin Lobé qui nous organise des très beaux concerts, mais je m'excuse, j'ai oublié le nom du groupe et le style également du groupe de samedi soir.
Mais venez, des musiciens, des intermittents du spectacle, enfin des troubadours, des ménestrels qui vont se relayer.
Voilà,
sur scène.
Tout à fait.
C'est colossal, c'est la curiosité. Poussez-la jusqu'au bout en vous rendant du côté de l'échoppe de la rue du Maréchal Bosquet à Montmartre.
Voilà, voilà.
Où vous croiserez peut-être Romain Baxet.
Sans nul doute.
Merci beaucoup, Romain.
Merci à vous, à très vite.
Bonjour Morgane, qui est avec nous, je rappelle, pour la semaine, qu'on aura l'occasion de retrouver demain pour parler de la réforme des retraites, figurez-vous. À 14 ans, elle a décidé d'en faire un sujet. On en causera demain. Avant, on va évidemment d'aller voir ce qui se passe dans les rues montoises. Ma chère Morgane, bonjour.
Bonjour.
Morgane et la littérature, on a une petite minute pour en parler. À 14 ans, qu'est-ce qu'on lit?
Toi, en tout cas. Alors, moi, je ne l'ai plus, mais j'ai beaucoup lu tous les classiques, tout ce qui est Pagnol, tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi Catherine Pancol, j'ai lu tous ses livres.
D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que tu dis « je ne lis plus »
Oui. Oui, parce que bon, aujourd'hui, avant je lisais pour m'endormir, maintenant j'ai mon téléphone, tout ça, donc
c'est d'autres lectures.
Oui, c'est pas de la lecture, hein, c'est des vidéos, enfin c'est très mal.
Ouais. Non, c'est pas très mal, c'est une autre... Ça dépend.
Oui, mais
ça dépend
c'est ce qu'on regarde, ça dépend ce qu'on lit. Le cliché de l'adolescence, c'est insupportable.
Non, c'est pas du tout. Mais non, mais... T'es excellent. Non, non,
oh là là, quelle prise de recul sur...
C'est énorme. Non, mais parce qu'il y a...
Bravo, jeune fille.
Il y a ce débat, les jeunes ne lisent plus. Or, c'est faux, d'une certaine manière.
C'est faux.
Ils n'ont jamais autant lu.
Exactement.
Après, évidemment, si on se réfère... Si c'est pour lire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas terrible. Mais voilà, en allant lire des magazines en ligne... Y a
Mais vous faites bien de le souligner, et moi je le répète souvent quand on a des classes qui viennent à la librairie, là, qu'on reçoit souvent des classes, et je dis mais vous ne vous rendez pas compte, mais vous lisez plus que vos grands-parents.
Bien sûr.
C'est-à-dire que vous avez une pratique de la lecture, vous voyez, qui est en fait tellement quotidienne, tellement inscrite dans votre quotidien, qu'en fait vous lisez plus que vos grands-parents. Bien sûr, vous ne lisez pas Flaubert, Balzac tous les jours, mais le fait de lire des textos, des SMS, des commentaires, d'avoir cette pratique de lecture, d'écriture également, vous écrivez beaucoup, voilà. Mais en fait, c'est voilà.
Il n'y a pas que la génération SMS qui.
C'est une non, tout à fait. Une pratique de la lecture très vraiment qui fait partie de votre vie. Après, il suffit juste de la transformer en bouquin de temps en temps. N'hésitez pas, bien sûr, à venir nous voir. On vous conseillera de très bons ouvrages.
Voilà. Morgan, vous avez très bien tiré, je trouve. Sur ce coup. Non, voilà. Bah, écoutez, allez voir notre ami Romain si vous cherchez à renouer avec la littérature. On se retrouve très vite, messieurs dames. J'adorais ce moment de partage sociologique.
Moi également, moi également, socio-professionnel.
Oui. Bien à vous.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.